Un beau-frère, quatrième partie. Tremblante d'angoisse, pendant cet échange de paroles rapides, Cyprienne était restée contre la porte, et ses yeux allaient de l'un à l'autre pour tâcher de comprendre ces grands mots de requête, de conclusion, d'ordonnance, qu'elle entendait pour la première fois. L'avoué, qui savait parfaitement de quels éléments se composent d'ordinaire ces sortes de requêtes, voulut lui épargner certains détails qui assurément allaient la faire rougir et plus tard la feraient souffrir. Il fit un signe à Sénéry pour remettre cette lecture à un autre moment. Mais celui-ci n'était pas dans une situation à écouter les conseils de la prudence. « Non, dit-il, tout de suite. Cependant, ne me trouvez-vous pas digne de partager ces douleurs ? Dit-elle. « Je trouve qu'il est des calomnies qu'une honnête femme ne doit pas connaître, surtout lorsqu'elle frappe l'homme qu'elle aime. » Au regard qu'ils échangèrent, il comprit que toute observation serait inutile. D'ailleurs, lors même qu'il parviendrait à lui cacher le contenu de cette requête pour le moment, ne la connaîtrait-elle pas toujours tôt ou tard ? « Puisque vous le voulez, voici cette requête. » L'un et l'autre, souvenez-vous qu'elle a pour but de provoquer l'interdiction, et que par conséquent, les faits qu'elle présente sont groupés et arrangés pour ce résultat. À messieurs les présidents et juges composant le tribunal civil de Condé-le-Châtel. Monsieur François-Joseph Boismard, comte d'Éturequeray, commandeur de la Légion d'honneur, président honoraire de la cour de Caen, demeurant à Angerville, a l'honneur d'exposer qu'il vient accomplir un pénible mais impérieux devoir en provoquant des mesures indispensables pour assurer à son fils, Sénéry d'Éturequeray, les soins et la surveillance spéciale que nécessite son état mental, et en même temps sauvegarder, s'il en est temps encore, ses droits contre les tentations cupides auxquelles l'expose sa triste situation.
« Quelle tentative cupide ! » s'écria Sénéry. « De la part de qui ? » ?»«
Vous voyez, madame, que j'avais raison de vouloir vous cacher ces infamies. Ce que je prévoyais se réalise, et il faut, par ce début, vous attendre à vous trouver mêlé à ce débat, si même vous n'en êtes pas la pièce importante. »
Je ne me plaindrai pas des coups dirigés contre moi. »
L'avoué haussa les épaules pour dire qu'elle ne savait pas ce qui l'attendait. Puis, continuant, « Que, pour éclairer la religion du tribunal et le mettre à portée d'apprécier la nécessité qu'il y a de pourvoir sans retard à l'administration de la personne et des biens de ce malheureux jeune homme, il convient d'entrer dans quelques détails. » 1. Dès son enfance, il donna des marques nombreuses de son caractère violent. Et malheureusement, au lieu d'être sévèrement dirigé, il a été abandonné à lui-même par sa mère, qui, obéissant à un sentiment de tendresse extrême, s'est toujours montrée de la plus grande faiblesse pour son fils. C'est ainsi qu'il a grandi dans l'éducation de la famille et qu'il est devenu une nature ardente pour ses caprices et ses passions, molle et efféminée pour les épreuves de la vie.
Pauvre maman, comme elle est morte, on ne peut l'accuser de folie, mais on la rend responsable de la mienne.
2. À peine arrivé à Paris, où il avait été envoyé pour faire ses études de droit et se préparer à suivre dans la magistrature la trace glorieuse que ses ancêtres y ont laissée, il se livre avec emportement à sa passion pour le plaisir. La sollicitude pleine de prévoyance de son père lui avait imposé un travail régulier chez un des meilleurs avoués du palais, l'honorable monsieur Tête-Vuide. En agissant ainsi, on avait surtout en vue de le soustraire à des entraînements auxquels il n'était que trop disposé à succomber. Soins inutiles d'un père sage. Non seulement il ne travaille pas dans cette étude, mais il y est une cause de trouble. Il entraîne plusieurs de ses camarades et les arrache à une vie laborieuse pour les jeter dans le désordre.
« Je crois bien que nous y passerons tous, » dit l'avoué.
Voilà pour 10 préaux. C'est à ce moment qu'on peut suivre régulièrement chez lui la marche de plusieurs manies. Manie des achats inutiles, manie des vêtements ridicules. Ceci est constaté par plusieurs lettres de M. Tête-Vuide, 6 jointes, lesquelles sont un tissu de plaintes. Plainte sur la conduite, plainte sur le travail, plainte sur le caractère emporté et désordonné. 3. Ayant vécu jusque-là sous l'œil de son père, M. Sénéry des Turquerets n'avait pu se livrer à toutes les passions dont il portait le germe. Mais à Paris, il en est tout autrement. Il n'est pas nécessaire de dresser une liste de ses maîtresses. « Voilà précisément, dit l'avoué en s'interrompant, ce que je voulais vous éviter, madame. Il est temps encore. » Mais voyant qu'elle ne répondait pas, il continua. Sans doute, les passions de la jeunesse sont jusqu'à un certain point explicables, mais chez lui, il y a plus que l'ardeur d'un sang jeune. Les femmes, dont il devient le jouet, exercent sur son intelligence faible et frivole un pouvoir despotique, et déjà l'on peut voir ce qu'il deviendra entre leurs mains. Sans entrer dans des détails dont le récit serait peu convenable pour le tribunal, un fait, choisi entre 1000, suffira pour montrer quel était l'état moral de ce jeune homme de 20 ans. Pendant les vacances, il avait été rappelé par son père. Il arrive à Condé, suivi d'une de ces femmes élégantes et brillantes dont le sourire est si redoutable. Elle a 30 ans, elle est dans tout l'éclat d'une beauté qui lui a valu une certaine renommée dans le monde où fleurissent ses enchanteresses. Décidément, fit Louis, pour atténuer l'effet de ces détails, on écrit bien en province. Ce n'est pas à Paris que mes clercs trouveraient de si belles choses. Mais cette plaisanterie fut en pure perte. Cyprienne, qui tenait ses yeux fixés sur le parquet, ne les releva pas, et Sénéry n'interrompit pas le tapotement nerveux de sa main sur le bord de la table. Par les intermittences de ce mouvement machinal, on pouvait suivre l'intensité des impressions qui se succédaient en lui au hasard de cette lecture. Il installe cette créature à 2 pas de son père, dans les meilleurs appartements de l'hôtel du Bœuf Couronné, qui n'étant point assez beau pour recevoir cette femme, sont meublés à 9 avec un luxe insensé. Nous n'entrerons pas non plus dans le récit des scènes honteuses dont cet hôtel fut le théâtre, scènes qui portaient le désespoir dans sa famille et le scandale dans la ville. Si le tribunal voulait faire jaillir une plus grande lumière sur ce point, que nous voilons par respect pour la décence publique, rien ne serait plus facile. Ces faits déplorables ont laissé une profonde trace dans la conscience des habitants. Il n'y aurait qu'à interroger leurs souvenirs. De tous ces faits, nous n'en évoquerons qu'un seul, qui prouve sans réplique possible une attaque de folie. La peine régnait, pas toujours, entre les deux amants. Un jour que la jeune femme voulait aller à une partie de campagne avec quelques jeunes gens qu'il avait invités, M. Sénéry, que cela contrariait, ne trouva rien de mieux que de lui brûler sa robe sur les épaules, et cela au risque de la tuer. Le maître d'hôtel, les voisins, accoururent au cri de la malheureuse, et l'on put éteindre ce commencement d'incendie. Un quart d'heure après, il se traînait aux genoux de celle qu'il avait voulu brûler vive, en l'appelant « mon ange adoré ».
« Quelle niaiserie !» s'écria Sénéry. « Et c'est sur de pareilles folies qu'on prétend me déclarer fou ?»«
Cependant, mon ange adoré... »«
Je n'ai pas envie de rire. »«
Ni moi non plus. Bien que vouloir interdire un homme parce qu'il a appelé sa maîtresse mon ange adoré soit assez drôle, mais je vois par ce commencement que rien ne sera épargné dans ta vie, et que les choses les plus innocentes vont être singulièrement défigurées. Continuons.
4. En même temps, il se livrait à des dépenses qui n'étaient nullement en rapport avec la pension que lui servait son père, 500 francs par mois. Il achetait de tous côtés les objets les plus inutiles. Une voiture de 5 000 francs chez un carrossier des Champs-Élysées, des robes de 3 000 et 4 000 francs, plusieurs factures sont 6 jointes. Une fois,
il rencontre sur le boulevard monsieur le maire de Condé-le-Châtel et lui montre une bague magnifique qu'il vient d'acheter. Monsieur le maire lui demande combien elle coûte. Il répond d'un air superbe qu'il n'en sait rien, que quand un homme comme lui a une fantaisie, il achète sans s'inquiéter du prix. 5. Sa majorité, en lui donnant la libre disposition de la fortune de sa mère, lui permet de satisfaire librement ses passions. Jusqu'à présent, nous l'avons vu plus ardent au plaisir que ne le sont les jeunes gens de cet âge, prodigue, emporté, avec ça et là des accès de fureur aveugle. L'incendie de sa maîtresse. Maniaque dans ses goûts, étrange dans ses toilettes. Nous allons le voir maintenant. À partir du moment où il peut se précipiter dans des excès de tout genre, arriver à une impuissance absolue, à une véritable imbécilité de volonté qui lui font perdre tout libre arbitre, tout sens moral, et le livre sans défense à tous ses appétits matériels, à tous les caprices de son imagination déréglée, et aussi à toutes les suggestions des intrigants qui veulent s'emparer de lui. Cyprienne, qui avait jusque-là gardé un silence absolu, fit un geste d'indignation, en même temps que Sénéry frappait la table avec violence. « Voilà donc cette loi qui doit nous sauver !» s'écria-t-il. « En attendant, elle permet qu'un homme innocent soit traité ainsi. Que dirait-on de plus si j'étais resté 10 ans à Charenton ?» La phrase est vive. « Fou ou monstre ! Et cette requête va traîner dans les études ?» Être lu par tout le monde, imprimé peut-être dans des mémoires, même reproduite dans des journaux. Quelle réparation ta loi me donnera-t-elle? En repoussant la demande en interdiction, elle proclamera que les faits énoncés dans cette requête sont faux. Si un passant m'insulte parce qu'il est de mauvaise humeur ou parce que ma figure lui déplaît, je peux lui donner un coup d'épée ou le faire punir par la justice. Mais si celui qui m'outrage, au lieu d'être un inconnu, est un parent, si au lieu d'être entraîné par un mouvement de vivacité, il a pour mobile le vol et la lâcheté, si au lieu d'une insulte légère, il publie partout que je suis atteint d'imbécilité, que j'ai perdu le sens moral, que je suis un monstre honteux, la loi ne peut rien pour moi, et même c'est lui qu'elle protège. Si tu entends tout cela avec calme, tu ne seras pas fou. Mais si tu cèdes à l'indignation de l'honnête homme, tu seras fou. » L'avoué continua sa lecture. 6. La fortune qui lui revenait de sa mère s'élevait, d'après les pièces ci-jointes, à plus d'un million. En moins de 3 années, elle fut réduite à la seule terre du camp Héroux, qui vaut à peu près 400 000 francs. 600 000 francs disparaissent, dissipés, gaspillés, suivant les caprices de sa folie. Faut-il dire comment ? Un fait entre 1000 suffira. Une paire de chevaux, qu'il paie 10 000 francs pour l'une de ses maîtresses, est revendue par celle-ci 2 jours après au marchand même qui l'avait livré, moyennant 2 000 francs. Cela a été révélé dans un procès en escroquerie intenté à ce marchand par l'un de ses associés, procès qui a été jugé à la 7e chambre du tribunal de la Seine. « Pour l'effet de prodigalité, » dit l'avoué en suspendant sa lecture, « la défense sera assez difficile. » Malheureusement, mais il me semble que c'était à ce moment qu'il fallait s'en inquiéter. Quel reproche peut-on m'adresser maintenant, puisque depuis 2 ans, ma fortune, au lieu de diminuer, s'est augmentée ? » C'est ce que nous allons voir. 7. En allant à Chantilly, où il avait une écurie de course, il fait la rencontre d'une jeune femme, qui, en qualité de maîtresse de musique, donnait des leçons dans un pensionnat de Senlis. Il s'éprend d'elle, et avec l'emportement qu'il met en toute chose, il la poursuit d'une façon si grossière que plus d'une fois il scandalise les voyageurs qui sont témoins de ses épanchements. Cyprienne, pourpre de honte, détourna la tête. Son état mental était alors des plus graves, à ce point qu'il se présentait dans les maisons sous des noms supposés, louait des appartements qu'il n'occupait pas, arrêtait des pensions pour des personnes de sa famille qui n'avaient jamais existé que dans son imagination délirante. C'est ainsi qu'il s'introduit chez les demoiselles Picot, maîtresse de pension à Senlis, visite leur établissement et retient une place pour une de ses jeunes sœurs qu'il promet d'amener prochainement. Or, la seule sœur qui les tue est Madame la baronne Friardel, à ce moment déjà mère de famille. Ce fait de démence bien caractérisé pourra être attesté par la demoiselle Picot l'aînée, qui s'aperçut du dérangement de sa raison aux discours incohérents qu'il lui tint, et fut forcée de les conduire avec les ménagements qu'on prend vis-à-vis d'un fou.
« Tu sais comment les choses se sont passées ?» interrompit Sénéry. « Tu vois comment elles sont dénaturées ?»« Ah, vous êtes des gens habiles, messieurs les avoués !»
8. Sa fortune, réduite aux chiffres que nous avons dites, ne lui permet plus d'habiter Paris. Alors il revient au camp Héroux, et dans ce vieux domaine, tout plein des souvenirs sacrés de son vénérable grand-père, il ne craint pas d'introduire sa maîtresse. Et Louis s'interrompit brusquement et bredouilla quelques mots.
« Qu'as-tu donc ? Cette requête est absurde !»
Mais avec son intuition de femme, Cyprienne avait compris qu'il voulait passer quelque accusation dirigée contre elle.
« Je vous en prie, » dit-elle, « lisez tout, je rougirais davantage si j'avais été épargnée. »
D'une voix rapide, l'avoué reprit. « Son aveuglement va jusqu'au point qu'il la veut épouser, et il faut la résistance énergique de son père pour empêcher ce malheur. Les lettres qu'il écrit alors, et qui sont si annexées, démontrent le désordre de son esprit. Seule, elle suffirait pour justifier notre demande. » Ne pouvant obtenir le consentement de son père, il s'en passe. Il vit publiquement avec elle et il en a un enfant qu'il traite comme son fils, auquel il donne son nom, de même qu'il traite cette aventurière comme sa femme et lui donne ce titre. C'est un scandale public qui désole ceux qu'il n'indigne pas. L'effet qu'il produit sur d'honnêtes populations n'est atténué que par la connaissance que tout le monde a acquise de son état mental. 9. Sous l'influence des excès de tout genre auxquels il se livre, cet état s'aggrave chaque jour. À Paris, ces désordres nous ont échappé, noyés dans le mystère d'une grande ville. Mais au camp Héroux, nous pouvons suivre sa dégradation pas à pas. Sa faiblesse d'esprit est telle que son plus grand plaisir consiste à atteler ses gens de service, ses domestiques à des voitures qu'il s'amuse à leur faire traîner en les fouillant, ni plus ni moins qu'un enfant. Ce jeu a un tel attrait pour lui qu'il le répète tous les jours. C'est la récréation qui suit son déjeuner. Et depuis le mois d'octobre dernier jusqu'au mois de mai de cette année, il n'a pas laissé passer un jour sans s'y livrer. Cette manie est de notoriété publique et pourra être attestée par plus de 20 témoins. Qui, pour ne pas exaspérer sa fureur, toujours prompte à éclater, se sont prêtés à cette étrange fantaisie. 10. Il continue ses achats de choses inutiles, et bien que sa situation financière soit très précaire, il jette l'argent à pleine main de tous côtés. Sa prodigalité est si bien connue qu'à 10 lieues à la ronde, tous ceux qui n'ont pas de scrupules la mettent à contribution. On tire de lui ce qu'on veut. Il n'y a qu'à demander. Souvent même, il n'attend pas qu'on demande.
« Ce n'est pas la première fois, dit Éloï, que je vois une qualité transformée en un vice. Il ne faut pas être meilleur que les autres. Que cela te serve de leçon. »
Cette générosité lui donne naturellement une foule de clients. Quand il se rend aux foires, on le voit entrer dans les cabarets avec des gens de la plus basse extraction. Là, il jette des poignées d'or sur les tables et paye pour tous ceux qui n'ont pas d'argent. C'est ainsi qu'à la foire de Guilbray, il a nourri une troupe entière de saltimbanques. 11. Lorsqu'il ne trouve personne pour l'aider à gaspiller sa fortune, il invente des manières nouvelles. Il y a quelques mois, lors de la livraison d'une vente de bois, il a voulu mettre le feu à un immense tas de coteries. Empêché par les personnes présentes, il a tenu, malgré les représentations les plus énergiques, à allumer un véritable incendie, disant qu'il voulait voir si son bois brûlait bien. Les témoins de ce fait ont été unanimes à le considérer comme un acte de folie.
Est-ce une invention ? Demanda Éloui.
Non, il en est de cela comme de tout le contenu de cette infernale requête. Le fond est vrai. Les marchands cherchaient des chicanes pour la livraison du bois sous prétexte qu'il était pourri. J'ai fait prendre 5 ou 6 fagots au hasard, je les ai mis en tas et les ai allumés. Ils ont bien brûlé et mon marché a été exécuté sans procès.
12. De tout ce qui précède, il résulte bien évidemment que la vie de M. Sénéry des Turquerets n'est qu'une suite non interrompue de contradictions, qu'il est sous l'empire d'une instabilité incessante, qu'il est le jouet de tous ceux qui veulent s'emparer de lui, que depuis 7 ou 8 ans il a donné des marques non interrompues de folie, enfin qu'il est dans un état mental qui ne lui permet d'observer aucune règle de conduite physique et morale et ne lui laisse pas l'usage raisonnable de sa liberté. Cependant, tant que cet état n'a porté préjudice qu'à lui-même ou à sa fortune, nous n'avons pas voulu provoquer l'interdiction. Cette mesure rigoureuse répugne toujours à un père. Mais voici que la folie, qui pendant plusieurs années a gardé un caractère assez doux, inoffensif pour les autres, s'exaspère par les excès auxquels il se livre et devient dangereuse pour la sûreté publique. Ces accès de fureur prennent une violence telle que ce serait pour la famille assumer une grave responsabilité si elle ne recourait pas à la loi. Souvent, depuis qu'il habite le camp Hérou, il avait proféré des menaces contre plusieurs personnes. Souvent, il avait effrayé par ses accès de fureur des paysans qu'il rencontrait dans ses bois ou sur ses terres. Souvent, il avait maltraité des enfants. Il y a quelques jours, ayant rencontré dans un endroit écarté un pauvre diable nommé Tournebu, il s'est jeté sur lui et l'a roué de coups si violents qu'il l'a laissé à moitié mort sur la place. Ce qu'il y a de particulier au point de vue médical dans ce fait déplorable, c'est que Tournebu est un des hommes les plus forts du pays, et que pour qu'il n'ait pas pu se défendre, il a fallu que M. Sénéry fût dans un de ses accès de fureur, où, comme chacun sait, les forces des fous sont décuplées. Les blessures de la malheureuse victime ont été constatées par M. le docteur Gillet, maire de Condé-le-Châtel, et M. le baron Friardel, agissant au nom de la famille, a dû compter au malheureux blessé une somme importante pour qu'il ne porte pas plainte et n'amène pas devant la police correctionnelle l'unique héritier d'un nom que jusqu'alors la magistrature française avait toujours vu à ses côtés et jamais devant elle. Dans ces conditions, il n'y a plus possibilité de différer des mesures qui fassent cesser un tel état de choses. Pourquoi le requérant demande au tribunal que, vu les articles 489 et suivants du Code Napoléon, 890 et suivants du Code de procédure, attendu que, au terme de l'article 489 précité, le majeur qui est dans un état habituel d'imbécilité et de démence ou de fureur doit être interdit, utile des intervalles lucides. Dire et ordonner que le conseil de famille de M. Sénéry des Turquerets sera assemblé pour donner son avis sur la dite demande. Dire et ordonner également que M. Sénéry des Turquerets sera interrogé dans la chambre du conseil au jour et heure ultérieurement fixés. Le requérant déclarant en outre présenter comme témoin les personnes dont la liste est ci-jointe.
« Tu es bien certain, n'est-ce pas ?» dit Éloui en poussant la liasse de papier sur la table, « que la demande en interdiction est formée par Friardel. Eh bien moi, je suis certain aussi que cette requête est son œuvre. C'est lui, lui seul qui l'a écrite. L'avoué n'a donné que la formule. Nous ne sommes pas si habiles que cela. Il y a là-dedans des perfidies de rédaction qui viennent du cœur.
C'est un tissu d'absurdité. »
« Absurdité tant que tu voudras, il n'en est pas moins vrai cependant que celui qui lira cette requête, sans te connaître, te déclarera fou et sera convaincu que ceux qui demandent l'interdiction sont parfaitement désintéressés. »«
Ceux qui ne me connaîtront pas, c'est possible, mais le conseil de famille... »«
Il faut voir comment il a été composé.
et je suis bien certain d'avance que dans sa formation, nous allons retrouver l'habileté de la requête. Monsieur le baron Friardel, beau-frère. Naturellement, celui-là a été d'avis qu'il y avait lieu à poursuivre l'interdiction. Monsieur le comte de Flancourt, monsieur le vicomte de Flancourt, cousin, ce sont des neveux de ta mère.
Oui.
Par conséquent, des neveux aussi de l'oncle qui t'a laissé 300 000 francs.
C'est ce testament qui a mis la guerre entre nous. Ils espéraient avoir toute la fortune de mon oncle qu'ils avaient accaparée.
Ils ont été furieux du partage qu'il en a fait entre nous quatre. De là une haine qui n'avait jusqu'à présent éclaté qu'en mauvais procédé.
Trouvant une occasion de frapper sur toi, ils se sont unis à Friardel.
En attendant qu'ils s'unissent à toi pour frapper sur Friardel.
Rien de plus naturel, c'est la science de la politique.
Cela te fait déjà 3 adversaires.
Maintenant, monsieur Gillet, maire de Condé-le-Châtel.
L'ami intime, l'obligé, le complice de Friardel. Il est certain qu'il y a entre eux des cadavres qui les attachent l'un à l'autre.
Cela fait 4.
Monsieur le chevalier de Neuvillette.
Un ami de mon père, un pauvre vieux bonhomme, parfaitement inoffensif, disant oui, disant non dans la même minute, poli, timide, ayant une peur horrible de contrarier la personne qui lui parle en face, et se moquant d'elle quand elle a le dos tourné, une vraie tête de girouette.
Nous voilà 5 contre toi.
Le dernier, monsieur Ozone.
Encore un ami de mon père. De plus, oncle dit Préau, qu'il m'accuse d'avoir détourné du bon chemin par mes exemples et mes conseils.
Magistrat de la vieille école, fanatique de la puissance paternelle telle que la comprenaient les Romains, a essayé 20 fois de me faire nommer un conseil judiciaire.
N'as-tu pas un oncle ?
Assurément, un frère de mon père, le général des Turquerets, qui lui-même a 2 fils.
Où demeure-t-il ?
Le général à Paris, le fils aîné je ne sais où en ce moment. Il est chef de bataillon et doit suivre son régiment. Le jeune habite Orléans.
Crois-tu qu'il t'aurait été favorable ?
Nous avons toujours été unis d'amitié. Tous 3 m'auraient défendu. Voilà pourquoi on les a écartés.
Comme, au terme de la loi, on doit prendre les parents qui habitent dans une distance de 2 myriamètres, le juge de paix a pu ne pas les convoquer.
Encore une absurdité légale.
Il y a du pour et du contre, mais comme le contre s'applique à notre affaire, il faut nous en servir.
C'est donc là-dessus que nous baserons notre défense, en demandant la nullité de la délibération. Tu te feras écrire par ton oncle et tes cousins qu'ils seraient venus s'ils avaient été convoqués. Et nous tâcherons de prouver que le conseil n'a pas été loyalement composé.
Cela est bien évident, s'écria Cyprienne.
Devant la justice, rien n'est évident. Tout est à prouver. Au reste, cela viendra en son temps. Pour le moment, il faut aller au plus pressé. Et le plus pressé, puisque tu dois être interrogé demain, c'est d'obtenir le désistement de ton père à la demande en interdiction. Tu vas donc te rendre tout de suite chez ton père.
Sénéry fit un geste de refus.
Il est en enfance, dis-tu, raison de plus pour obtenir facilement ce que tu demanderas. Par les caresses, par la persuasion, n'importe par quel moyen, il faut avoir ce désistement.
Si tu ne veux pas, dit vivement Cyprienne, j'irai, moi. Henriot dans mes bras, il ne nous repoussera pas.
Non seulement mon père est en enfance, mais encore il est sous le pouvoir d'une femme dévouée à Friardel. Je ne pourrai pas le voir seul. Elle le garde à vue. Il tient à elle. Elle lui fait trop peur pour qu'il ose l'éloigner.
Enfin, il faut tenter cette démarche. Moi, pendant ce temps, je t'attendrai à Condé chez ton avoué. Fais atteler.
À ce moment, dit Préau, qui était resté au camp Héroux, descendit de sa chambre. En quelques mots, et Louis le mit au courant.
« Fais-moi donner un cheval, » dit-il. « Je vais aller chez Friardel. Je veux avoir avec lui 2 mots d'explication. Quel malheur que vous ne puissiez pas y assister. Je crois qu'elle sera assez drôle. En revenant, je passerai chez mon oncle Ozanne. »
Pas de folie, dit Louis.
Sois tranquille. D'ailleurs, je suis certain que quoi que je fasse, il n'aura pas la pensée de demander mon interdiction. Avant la vaporisation de mes héritages, peut-être. Tuteur d'un interdit, ce n'est pas une mauvaise affaire. Mais maintenant, il serait obligé de me nourrir. Sans le sou, voilà qui vous met à l'abri de bien des ennuis.
Le phaéton arrivait devant le perron. Cyprienne prit la main de l'avoué.
« Ah, sauvez-nous » dit-elle d'une voix tremblante, les yeux pleins de larmes.
Chapitre 8. Pour aller du camp Hérou à Angerville, où habitait le comte des Turquerets, il faut passer par Condé de Châtel. Sénéry, en arrivant dans la ville, ne prit que le temps de mettre en rapport Louis avec M. Pioline, son avoué, et aussitôt il continua son chemin. Bien que cette entrevue avec son père lui fût d'avance très pénible, il pressait son cheval, car le propre de sa nature était l'impatience, et lorsqu'il se trouvait en présence d'une difficulté ou d'un danger, il ne savait que se jeter en avant, tête baissée. Dans la longue avenue d'Ormes, qui de la route conduit au château, il croisa un vieux garde, qui, sa plaque sur la poitrine, le fusil sous le bras et son basset sur les talons, s'en allait en tournée. « Fabu, dit-il en arrêtant son cheval, mon père est-il sorti ce matin ?»«
Non, monsieur le comte, il y a déjà longtemps que monsieur le comte ne sort plus le matin. »
Puis, après avoir regardé autour de lui, il ajouta à mi-voix
« Mademoiselle Arsène ne le laisserait pas aller. »
« Comment est-il en ce moment ?»
Une fois encore, le vieux garde explora de l'œil les environs.
« Monsieur Sénéry, dit-il vivement, « c'est moi qui vous ai fait tirer votre premier coup de fusil. Vous vous en souvenez, pas vrai ? C'était sur une corneille. Même que le fusil vous a donné une tape à la joue. Et que votre mère, la chère dame du bon Dieu, m'a appelée vieille bête. Eh bien, c'est pour vous dire, sauf le respect que je vous dois, que je vous ai toujours bien aimée. Pour lors, je vous dis maintenant que ça ne peut pas durer comme ça. Sans nommer personne, il faudrait vous montrer et une bonne fois faire le maître ici. Parce que si ça continue, c'est fini. Monsieur le comte baisse, voyez-vous. Il n'y est plus. Et quand il marche, il est tout de suite époumonné. Il y a longtemps que je voulais vous dire ça, mais je ne vous ai jamais vu tout seul. Quant à ce qui est d'aller au camp Hérou, je n'ai pas osé, rapport à ma place. Le lendemain, vous savez, le balai, et à mon âge, personne ne voudrait de moi.
Merci, père Fabu. Il n'y a pas de quoi, mais voyez-vous, il vient un âge où les enfants doivent être les maîtres.
Il y avait 5 années que le comte des Turquerets habitait Angerville. Mis à la retraite, par application du décret sur la limite d'âge, il était venu se fixer dans cette terre que pendant 10 ans il avait améliorée et considérablement augmentée au moyen du revenu de ses enfants. La mise à la retraite lui avait été fatale. À 70 ans, c'était encore un homme magnifique, et la dernière fois qu'il s'était rendu à la messe du Saint-Esprit, marchant grave et majestueux en tête de la cour, la poitrine développée, la taille droite, le visage lisse et rosé sous une couronne de cheveux blancs, plus d'un curieux l'avait longuement suivi des yeux, admirant ce superbe vieillard. La nature, qu'il avait bâtie à chaux et à sable dans le moule où elle façonne les carabiniers, avait eu la prévoyance de placer dans ce beau type de construction matérielle une intelligence et un cœur qui ne le fatigueraient pas. Durant 50 années de magistrature, il ne s'était jamais abandonné à un excès de travail ou à un effort d'esprit, laissant cela à de pauvres diables de rachitiques, fiers de se donner la fièvre pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont vivants. Quant à lui, il avait su être heureux plus facilement. Sa gourmandise lui avait valu une certaine réputation et son goût pour les femmes une célébrité qui a laissé des souvenirs dans plusieurs des villes de province. L'âge avait plutôt augmenté qu'il n'avait affaibli ces 2 grands mobiles de sa vie. Pendant la dernière année de sa présidence à Caen, on le voyait encore s'en aller tous les soirs en chasse, le nez au vent, les narines dilatées, arpentant d'un pas léger les rues où passent les dentelières. Et quand un jeune sergent de ville entrait en service, on le prévenait officieusement que si, quelquefois, dans l'obscurité, il apercevait sous les arbres du petit cours une grande ombre en conversation avec un bonnet blanc, il valait mieux ne pas s'en approcher. Ainsi il avait vieilli, restant à 70 ans aussi ferme, aussi solide, aussi jeune qu'à 50. Mais 6 mois de vie de campagne avaient eu vite raison de ce chef-d'œuvre de conservation. Cette vie saine et tranquille avait agi sur lui comme l'air sur ces fruits que les ménagères gardent tout l'hiver intacts dans un tiroir de commode, et qui, le jour où on les sort du milieu dans lequel ils se sont conservés, blétissent ou pourrissent en quelques heures. À Angerville, plus de fin dîner, qui, se renouvelant chaque jour, le tenait naguère en appétit, et par une certaine satiété, ne permettait pas à la gloutonnerie de l'emporter sur la gourmandise. Plus d'honneur, de salut respectueux, de flatterie, de platitude, qui lui faisait porter la tête haute et le soutenait dans une attitude majestueuse, mieux que toutes les ceintures et que toutes les bricoles. Plus de courses le soir à travers les rues, plus de marches, de contre-marches, l'œil ouvert, l'oreille aux aguets, qui le maintenait léger et dispos. Plus de ces émotions et de ces excitations qui le rajeunissaient comme autrefois elles ont rajeuni le roi David. N'étant pas homme à traduire Horace ou à tourner des ronds de serviette dans des noix de coco, il s'était mis à faire la cuisine. Il avait toujours eu une vraie vocation pour ce grand art, et plus d'une fois il avait pensé à continuer Brillat Savarin. L'ennui seul que dès son enfance lui avait inspiré le papier blanc l'en avait empêché. La cuisinière qui régnait alors sur ses fourneaux était une grande et belle fille nommée Arsène. C'était une Normande du Calvados avec des cascades de chair à la Rubens, et cette admirable carnation, moitié sanguine, moitié lactée, qu'on ne trouve que dans ce pays. 3 années passées à Trouville, dans la compagnie de la domesticité parisienne, lui avaient allumé les yeux, endormi la conscience et éveillé l'esprit. Le comte ne fut pas insensible à cette beauté robuste et provocante. Jusqu'à ce jour, par respect des convenances et du décorum, bien plus que par délicatesse de goût, il n'avait jamais laissé tomber ses regards sur les femmes de sa maison. Mais à la campagne... La puissance d'Arsène s'établit rapidement sur ce vieillard qui, à 70 ans, devint pour la première fois esclave de sa passion. Pour ne pas s'exposer à se donner elle-même une rivale, elle mit à sa place, devant les fourneaux, un chef mâle qui sortait de chez l'évêque, et elle monta de la cuisine dans la salle à manger, le premier jour pour servir son maître, éplucher son poisson, ses fruits, puis bientôt pour s'asseoir en face de lui. La vieille femme de charge, en pied depuis 20 ans, fut renvoyée, et avec les clés, Mademoiselle Arsène prit la direction de la maison. Pendant 5 ans, il fut gorgé de bonheur. Ou, plus justement, pendant ces 5 années, il trouva près d'elle, à satiété, la satisfaction de tous ses désirs. Restée cuisinière, malgré ses robes de soie et ses bijoux, elle lui organisait chaque jour des dîners plus succulents et plus soignés qu'il n'en avait jamais mangé. Et quand il le fallait, elle ne craignait pas de mettre la main à la pâte pour lui apporter un plat réussi. En même temps, devenue courtisane, elle lui tenait lieu, avec le charme de l'habitude si puissant sur un vieillard, de toutes les femmes qu'il avait autrefois aimées. À pareil régime, les vieillards vont vite. Insensiblement, la taille s'était courbée, les chairs s'étaient amollies, et l'intelligence, qui n'avait jamais été bien ardente, s'était engourdi au point de n'avoir plus que de fugitifs éclairs lorsqu'un désir venait la réveiller. Cependant, la machine physique était si solidement charpentée qu'elle avait résisté et qu'elle le soutenait toujours tant bien que mal. maîtresse toute-puissante dans la maison, Arsène avait dû néanmoins subir la loi de Friardel. « Ma chère belle, lui avait dit celui-ci, faites de mon beau-père ce qui vous plaira et ce qui lui plaira à lui-même, ça ne me regarde pas. Seulement, arrangez-vous pour n'être jamais hostile à mes intérêts ou pour contrecarrer mes idées, sans quoi vous me forceriez à intervenir. Le bonhomme tient à vous, cela est vrai, et je sais qu'il vous garderait quand même, nous ferions tout au monde pour vous renvoyer. Je comprends ce sentiment, qui est tout en votre faveur. Mais est-il en état d'avoir légalement une volonté? Pensez à cela. Vous sentez bien que si j'étais obligée de devenir maître ici, je ne pourrais pas tolérer ce genre de vie. Vous êtes une personne intelligente, vous vous souviendrez de cet avertissement amical, n'est-ce pas? Et vous en ferez votre profit. » Ainsi prévenu, Arsène n'avait jamais regimbé. Friardel lui laissait le présent, c'est-à-dire le moyen de grappiller tous les ans une vingtaine de mille francs qui allait grossir le capital avec lequel elle espérait épouser le percepteur, son amant. Elle s'était soumise à Friardel, dont le nom seul la faisait trembler. En descendant de voiture, Sénéry la trouva dans le vestibule. Elle l'avait vue venir de loin, et elle était là pour lui barrer le passage. « Mon père, » dit-il, « Monsieur le comte garde la chambre, il a passé une mauvaise nuit, et il a donné l'ordre qu'on ne l'éveille pas ce matin, il ne sonnera pas avant 2 ou 3 heures. » C'était là une réponse qu'on lui avait faite bien des fois, et dont habituellement il se contentait. Venant visiter son père plus par devoir que par tendresse, il avait coutume de répondre « Vous direz à mon père que je suis venu prendre des nouvelles de sa santé. » Et il s'en allait. Dans les circonstances présentes, il n'en pouvait être ainsi. « Cela est fâcheux, dit-il, mais j'ai besoin de le voir. » Et passant devant Arsène, il se dirigea vers l'escalier. « Monsieur le comte dort !» cria-t-elle en courant après lui. Il avait enjambé les marches 4 à 4, sans se retourner. La chambre de son père donnait directement sur le palier du premier étage. Il ouvrit la porte et la referma brusquement sur le nez de Mademoiselle Arsène, qui arrivait. « Qui est-ce qui met le verrou ?» cria une voix pâteuse partant du lit. « C'est moi, mon père, » dit-il en s'avançant. Mais le vieillard, qui s'était soulevé sur son lit, se pendit au cordon de la sonnette en criant « Arsène ! Arsène ! C'est moi, votre fils, Sénéry !»« Sénéry ? » dit-il en s'interrompant pour regarder autour de lui. « Pourquoi mets-tu le verrou ?» Puis, comme si le souvenir lui revenait, « Il est fou, il veut m'assassiner !» Et il recommença à sonner, tandis que de la porte Arsène lui répondait. Sénéry, bouleversé de cette scène étrange, s'approcha du lit. « Mon père, remettez-vous, vous voyez bien que je ne suis pas fou. J'ai mis le verrou parce que j'ai besoin de vous parler sans témoin. Ôte le verrou !» Le seul moyen de le calmer, c'était de lui obéir. Sénéry revint vers la porte et tira le verrou. Aussitôt, la porte s'ouvrit et Arsène voulut se précipiter dans la chambre. Derrière elle se tenait le jardinier et une fille de service attirée par les cris. Mais Sénéry, sur le seuil, leur barra le passage. « J'ai besoin d'être seul avec mon père, » dit-il d'une voix ferme. « Lequel de vous osera entrer ?» Il y eut un moment d'hésitation, dont Arsène se remit bien vite. « Monsieur le comte nous appelle !»« Mon père ne vous appelle plus, retirez-vous. » Il était en face d'elle, à 2 pas, et malgré la modération qu'il s'était imposée, il sentait que la colère l'envahissait. Mais tout à coup elle recula, et, sans dire un mot, elle sortit de la chambre en tirant la porte sur elle. Il revint vers le lit de son père. Le comte, assis sur son séant, le cou nu, ses cheveux blancs qui étaient encore magnifiques, épars en grandes mèches dans le cou et dans la figure, répétait machinalement « Pas fou, pas fou !»
Non, mon père, vous le savez bien. On m'a dit que tu battais les gens que tu rencontrais dans tes bois. Pourquoi as-tu voulu battre Arsène? Tu as mis le verrou en entrant pour m'effrayer. Tu vois bien que tu es fou. Imbécilis, imbécilis. Non, mon père, c'est là une machination de Friardel. Il ne faut pas accuser les absents, c'est la règle. Il m'a bien accusé, lui, perdu dans votre esprit. Et sur ses rapports mensongers, sans m'entendre, vous avez demandé mon interdiction. Le majeur, qui est dans un état habituel d'imbécilité, de démence ou de fureur, doit être interdit, dit-il d'un ton sentencieux. Tu sais, article 488 ou 489, non, 489, le 488 s'applique à la majorité. La majorité est fixée à 21 ans accomplis. Tu vois, je me souviens, l'imbécilisme doit être interdit. Quia rebus sui superesse non possunt. Ces phrases, apprises au temps de sa jeunesse, surnageaient dans sa mémoire troublée et lui revenaient par lambeaux. Mais vous savez bien que si l'on veut m'interdire, c'est pour empêcher mon mariage et par là ne pas exécuter le testament de mon oncle. Pourquoi veux-tu épouser une femme qui n'est pas de ton rang? Si tu avais fait un choix honorable et de mon goût, je n'aurais pas donné mon consentement à ton interdiction. Et le vieillard se prit à sourire d'un air fin, comme un enfant enchanté d'une malice qu'il a faite. « Il est vrai que ce n'est pas trop ta faute, » continua-t-il. « Si tu n'avais pas été imbécilis, tu aurais mieux choisi, pauvre garçon. »« Mais pour cela encore, on vous a trompé. Celle que j'aime est la plus honnête, la meilleure des femmes. »« Tu crois cela parce que tu es imbécilis ?» Que répondre à ce mot toujours le même, qui revenait comme une leçon apprise? Sénéry était à bout de patience. « Mon père, écoutez-moi, » dit-il en lui prenant la main. « Je suis sûr que si vous avez donné votre consentement à mon interdiction, vous avez cru agir dans mon intérêt. Mais c'est pour t'empêcher de te marier et de dissiper le reste de ta fortune. Mais... « si vous m'empêchez de me marier, c'est l'extinction de notre famille. Autrefois, vous étiez fier de votre nom. Vous vouliez un fils pour le perpétuer, et aujourd'hui, vous le condamnez à mourir. »«
C'est vrai. »«
Quand j'étais enfant, vous fêtiez l'anniversaire de ma naissance. Je me souviens que l'on buvait à ma santé en disant « à la santé des comtes des Turquerets ». Et je faisais le tour de la table. Vous disiez que c'était la tradition de la famille.
Oui, je m'en souviens. Cela remontait à mon grand-père.
Aujourd'hui, pour mon anniversaire, vous demandez que je sois interdit. Le vieillard était ému. De grosses larmes roulaient dans ses yeux. Tout à coup, il se mit à pleurer en répétant « mon pauvre fils, ah, pourquoi es-tu imbécilis ?»«
Mais je ne le suis pas. Tout le monde sait que c'est un mensonge de Friardel. »«
Non, mon père, regardez-moi donc. Est-ce que mes yeux sont ceux d'un fou? Mes paroles sont-elles d'un fou ?»«
Tu n'es pas fou, pas fou. »
Cet appel à son orgueil l'avait touché. Ce n'était plus son fils accusé par Friardel qu'il voyait devant lui. C'était l'enfant sur lequel il avait bâti tant de projets ambitieux, l'héritier de son nom. Avec une mobilité enfantine, il se mit à sourire.
« Voyons, dit-il, tu n'es pas fou, n'est-ce pas? C'est vrai. »
« Vous le voyez bien. Ah oui, les fous disent toujours qu'ils ne sont pas fous, je sais cela. Mais nous allons voir. » Quand nous étions en exercice, nous avions des moyens pour cela. Mets-toi là et réponds comme si j'étais, non ton père, mais un juge. 2 et 5, combien cela fit-il? Ce fut Sénéry qui à son tour eut les yeux pleins de larmes. Et quoi, son père en était là. Ce père avait été dur pour lui en ces dernières années,
mais enfin il était son père, et les souvenirs de sa jeunesse, le respect auquel il avait été habitué, les sentiments de déférence, de tendresse filiale, n'étaient pas arrachés de son cœur.
« Sept, » dit-il tristement.
« Tu as été bien long à trouver cela, mais c'est vrai.
Donne-moi ta bourse maintenant. » Sénéry la lui ayant donnée, il la vida sur son drap en comptant tout bas.
« Voyons, » reprit-il, « écoute bien. 7 louis, 2 pièces de 5 francs, 1 pièce de 2 francs, 3 pièces de 50 centimes. Combien cela fait-il ?
153 francs 50 centimes.
C'est bien cela, tu l'as dit tout de suite. Pourquoi prétendent-ils que tu es fou ? Les fous ne savent pas compter.
Vous voyez donc qu'on vous a trompé. Et vous ne voulez plus maintenant, n'est-ce pas, que je sois interdit ?
Mais non, mon pauvre fils. Vois-tu, Friardel est un homme terrible. Quand il veut une chose, le diable la veut. Si tu savais comme il m'a tourmenté. Surtout ne lui dis jamais que tu as appris par moi le rôle qu'il a joué dans cette affaire, qui est son œuvre.
Soyez tranquille, je vous débarrasserai de lui.
Non, il vaut mieux être bien avec lui que mal. Je sais cela depuis longtemps.
Ah, tu n'es pas fou. Mais c'est vrai que tu ne l'es pas. Tout de suite tu m'as répondu, et juste.
Puisque je ne suis pas fou, il faut abandonner votre demande en interdiction. Venez avec moi à Condé, j'ai ma voiture. Je vous emmène chez l'avoué pour que vous donniez votre désistement.
Mais je ne sors plus.
Demain, je dois être interrogé par le tribunal. Voulez-vous que votre nom soit déshonoré par une accusation de folie ?
Non, et puisqu'il le faut, j'irai. Sonne, qu'on vienne m'habiller.
Si vous le permettez, je vais vous habiller moi-même.
Et Sénéry, qui avant toute chose voulait éviter l'intervention d'Arsène, car il savait que d'un mot, d'un geste, celle-ci pouvait changer la détermination de son père, s'empressa de lui servir de valet de chambre. Jamais il n'avait vu pareil désordre. Dans les armoires, un fouillis. Dans le porte-manteau, des jupons, des bonnets, des camisoles pêle-mêle avec les gilets et les pantalons.
« Donne-moi mon habit, » dit le comte. « Pendant que nous serons à Condé, j'irai faire une visite au président.
Un président peut bien des choses, ne l'oublie pas. Je veux lui expliquer moi-même ton affaire. »
Tant bien que mal, le vieillard se trouva habillé. Lorsqu'il eut endossé son habit, il se redressa comme au temps où il se rendait à l'audience. Le linge blanc, la cravate de batiste, les vêtements propres l'avaient rajeuni. Il ne lui restait plus qu'à se chausser. Mais malgré les recherches les plus minutieuses, Sénéry ne put pas trouver de souliers. Des pantoufles, des chaussons de toute espèce, il y en avait dans chaque coin, mais nulle part des bottes ou des bottines.
« C'est qu'il y a longtemps que je ne mets plus que des pantoufles, » dit le comte. « Sonne, on va me monter des souliers. »
Il fallut bien que Sénéry se résignât à sonner. À peine avait-il tiré le cordon que la porte s'ouvrit, et ce fut Arsène elle-même qui entra. La rapidité avec laquelle elle arrivait montrait qu'elle n'était pas loin. L'oreille à quelques trous de serrure, elle avait dû écouter tout l'entretien.
« Je sors avec mon fils, » dit le comte d'un ton décidé et comme s'il voulait arrêter les questions. « Faites-moi donner des souliers. »«
Des souliers ? Il y a longtemps qu'il n'y en a plus ici. »
« Comment ? Je n'ai pas de souliers. »«
Dame, monsieur le comte n'en voulait plus mettre. Je les ai donnés. »
Et comme elle s'était placée derrière Sénéry et en face du comte, elle fit des signes à celui-ci.
« Venez avec vos pantoufles, mon père. »
Les signes recommencèrent, plus pressants, plus accentués.
« Je ne peux pas me présenter ainsi chez de la fadouillère. Un président, tu sais, le respect. Je vous trouverai bien des chaussures à Condé. »
Mais les raisons les plus sensées étaient désormais inutiles. La résolution du vieillard était tombée devant Arsène. Elle avait d'un seul regard éteint la lueur de virilité qui s'était rallumée en lui. Il était redevenu enfant.
« Je n'ai pas absolument besoin d'aller à Condé, » dit-il. « Je peux écrire mon désistement ici. »
Sénéry comprit qu'il ne fallait pas insister et qu'il devait se contenter de ce qui était possible. Cet incident puéril des chaussures pouvait se répéter à propos de rien avant le départ. Mieux valait donc céder sur ce point.
« Eh bien, mon père, si vous voulez me faire cette lettre à l'avoué, je vais l'emporter. »
« Tout de suite ? Vous savez combien l'affaire est pressante.
Arsène, donnez-moi ce qu'il faut pour écrire. »
Elle sortit, puis presque aussitôt elle revint, portant un cahier et des plumes qu'elle posa sur la table.
« De l'encre, » dit Sénéry.
« Ah, il n'y en a plus, la bouteille est cassée. »
Il se retourna vers son père.
« Tu sais, » dit celui-ci timidement, « je n'écris pas tous les jours maintenant. »
Décidément, c'était un parti pris. La conspiration des niaiseries. Mais se fâcher n'était pas possible. Il hésita un moment s'il enverrait un domestique chercher une fiole d'encre chez l'instituteur, dont l'école était à 10 minutes du château. Mais de peur qu'on inventât une nouvelle défaite, il résolut d'y aller lui-même.
« Je reviens tout de suite, » dit-il.
Et il lança un regard furieux à Arsène. Il était convaincu qu'elle avait fait disparaître les encriers à l'instant même. Mais en cela, il se trompait. Ni les souliers, ni la bouteille cassée n'avaient été inventés pour lui. En réalité, il n'y avait ni chaussures ni encre dans la maison. Et cela tenait à un système de précaution. Une année après son installation, Arsène s'était fait faire un testament par le comte, et comme on lui avait expliqué que rien n'est plus facilement révocable qu'un testament, elle avait voulu se mettre à l'abri d'un pareil accident. Pour cela, elle avait eu recours à 2 expédients. Le premier consistait à persuader au vieillard qu'il ne pouvait pas marcher, ce qui lui avait permis de supprimer ses souliers, de sorte qu'il ne put aller chez un notaire si l'envie lui en prenait. Le second, plus simple encore, consistait à ne pas laisser d'encre à sa disposition, afin que s'il voulait, dans un moment de colère ou de réflexion, faire un nouveau testament, il ne le pût pas sans qu'elle en fût avertie. Les encriers ne paraissaient sur le bureau du comte que 2 fois par an, à Pâques et à la Saint-Michel, c'est-à-dire au moment où il y avait des quittances à signer pour les fermiers. Devant Sénéry, Arsène avait parlé au comte avec un certain respect. Le ton changea.
« Où donc vous alliez ? » demanda-t-elle en le regardant en face.
« À Condé.
Pourquoi faire ? »
« Pour me désister de la demande en interdiction contre mon fils. Il n'est pas fou, ma bonne Arsène, pas plus que toi ou moi.
Vous croyez ça à vous ? » ?»«
Il me l'a dit et je l'ai bien vu. »
« Pourquoi que vous n'avez pas sonné pour que je vous habille ?»«
Ce n'était pas la peine, Sénéry m'a aidé. »«
Ne mentez donc pas. Je parie qu'il n'a pas voulu que je monte. C'est donc lui qui est maître ici. »«
Ne te fâche pas. »«
Comment que je ne me fâche pas ? Voilà un monsieur qui, en entrant, me jette la porte à la figure, qui me bouscule quand je viens vous défendre, et c'est lui que vous écoutez. J'en ai assez à la fin. Je ne suis donc rien dans la maison. » « Je ne vous soigne pas bien, peut-être. »
Elle se cacha la figure dans un mouchoir.
« Voyons, ne pleure pas. »« Non, laissez-moi, je veux m'en aller. Parce que j'ai eu la faiblesse de vous écouter, voilà votre fils qui me traite comme la dernière des misérables. Eh bien, quand il va revenir, il ne me trouvera pas. »
À ce mot, le vieillard, qui était assis, se leva tremblant.
« Tu veux m'abandonner ? » ?»«
Je veux m'en aller d'ici. » « Qu'est-ce que ça peut vous faire, puisque vous avez votre fils ? Il vous soignera, il vous aimera mieux que moi. »«
Arsène, je t'en prie. C'est une indignité, après 5 années, être traité ainsi, après vous avoir sacrifié ma jeunesse. Vous êtes un ingrat. Avec ça, que c'était amusant de vivre toute la journée auprès d'un vieux singe. Croyez-vous que j'en aurais pas trouvé des hommes, et des jeunes, et des beaux, qui auraient été heureux de m'épouser ? Vous verrez, vous, si vous en trouverez une autre qui me remplacera. »
« Ma belle Arsène, je ne t'ai rien dit. Pourquoi me traites-tu ainsi ?»
Sans répondre, elle se pencha vers le vestibule en criant « Joseph ! Joseph !» C'était un grand diable de domestique, moitié paysan, moitié citadin, et qui avait la tournure d'un parfait chenapan.
« Vous aurez bien soin de monsieur, » dit-elle. « Moi, je m'en vas. »
Joseph, qui savait d'avance ce qu'il devait faire en pareille circonstance, prit une figure désolée et leva les bras au ciel.
« Allez m'attendre en bas, je vous expliquerai avant de partir tout ce que vous aurez à faire. »
Il sortit en poussant des gémissements.
« Voici les clés. »
Elle jeta un trousseau sur la table.
« Vous les donnerez à votre fils. On verra s'il vous empêchera d'être volé. »«
Tu veux donc me faire mourir ?»«
Adieu, monsieur. »
« Arsène, veux-tu que je te donne l'argenterie ?»«
J'en ai bien besoin de votre argenterie. Vous la donnerez à votre fils. »
Quoi qu'il fût entre ses mains une véritable marionnette, il y avait une chose qu'il lui avait toujours refusée, et à laquelle, pour cela précisément, elle tenait avec rage. C'était la montre de la comtesse. Une montre à émail bleu avec un cercle de perles.
« Je te donnerai la montre de ma femme. »«
Est-ce que je vous demande des cadeaux, moi ? Est-ce que je suis restée ici par intérêt ? La montre, oui, je l'aurais bien acceptée, parce que c'était un souvenir. Ça disait que vous m'estimiez. »«
Ah bien, oui, m'estimer. Votre fils m'insulte, me traite comme une voleuse. Vous le laissez dire, vous ne me défendez pas. »«
Je ne l'ai pas entendu t'insulter. »«
Je mens, peut-être. »
« S'il t'a insulté, il te fera des excuses. »«
Je n'en veux pas de ses excuses. Quand il entrera par une porte, je sortirai par une autre. »«
Eh bien, il n'entrera pas, puisqu'il n'a pas été convenable pour toi et ne doit pas rentrer ici. »«
Avec ça que vous oserez ? Vous avez peur de lui. Il va arriver tout à l'heure et me faire sortir comme tantôt. » »«
Dis à Joseph de fermer la porte. »
Joseph reparut.
« Quand mon fils va revenir, dit le comte, vous tiendrez la porte fermée. »«
Mais, monsieur le comte, je n'oserai pas. »«
Vous voyez bien qu'il fait peur à tout le monde. »«
Comment ? Vous n'oserez pas ? S'écria le vieillard.
« Quand je vous dis de faire une chose, faites-la, ne vous inquiétez pas du reste. »«
Et s'il veut, malgré tout, entrer ?
Vous lui direz que je lui défends de mettre les pieds ici et que je vous ai chargé de lui faire cette commission. »
Il a manqué de respect à Madame Arsène.
Je le chasse, vous entendez bien ?
Je le chasse.
Allez !
Puis, s'adressant à Arsène,
« Pourquoi ne m'as-tu pas dit tout de suite qu'il t'avait manqué de respect ?
Es-tu contente maintenant ?»
Elle fit la moue.
« Veux-tu encore partir ?
Et sa lettre ?
Dit-elle sans répondre. Le comte resta un moment embarrassé, étudiant sur le visage de son tyran ce qu'il voulait.
« Je ne la ferai pas, » dit-il enfin.
« Vous savez que vos affaires ne me regardent pas, mais je trouve que vous avez joliment raison. Tout ça, c'était un coup monté pour épouser sa musicienne. Et puis après, il se serait moqué de vous. Pourquoi veut-elle se faire épouser ? Est-elle fière ? Est-ce que j'ai jamais voulu que vous m'épousiez ? Si j'avais voulu, pourtant. Allons, venez déjeuner. »
À ce moment, on frappa à la porte d'entrée du rez-de-chaussée.
« Voilà votre fils, » dit Arsène. « Qu'est-ce qu'il va faire ?»
On frappa de nouveau un peu plus fort, puis plus fort encore en secouant la porte avec impatience. Dans un intervalle de repos, on entendit la grosse voix de Joseph.
« Monsieur le comte ne veut pas vous recevoir. Il m'a chargé de vous dire qu'il vous chassait. »
La porte fut ébranlée avec une violence telle qu'il sembla un moment qu'elle allait être arrachée. Puis tout à coup, il se fit un silence.
« Il y renonce, » dit Arsène en riant.
Il y renonçait, en effet, car bientôt on entendit un roulement de voiture. Immobile au haut de l'escalier, le comte était pourpre d'embarras et d'anxiété. Ses yeux allaient d'Arsène à la fenêtre et de la fenêtre à Arsène. Le père voulait courir après son fils. Le vieillard amoureux n'osait blesser sa maîtresse.
« Allons, » dit-elle, « venez déjeuner,
les truites vont refroidir. Deux belles truites à la crème que j'ai moi-même arrangées. Et qu'est-ce qui aurait retiré les arêtes si j'étais partie ?
Il la suivit docilement. Le roulement de la voiture s'était éteint, et dans son cœur aussi s'était déjà éteint le souvenir de son fils. Il ne pensait plus qu'à la truite et aux doigts potelés d'Arsène qui allait la lui faire manger.